15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Une émission quasi 100% confinée comme vous. De chez nous, nous restons mobilisés pour vous informer, pour tenter de répondre aux nombreuses questions médicales que vous nous posez sur le coronavirus tous les jours. Elles sont nombreuses, on y répond. Alors, il est à mes côtés pour vous répondre justement tous les jours, pour vous éclairer, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au programme, comme tous les jours, nous aurons plusieurs experts en ligne. D'abord le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, grand connaisseur du monde hospitalier. Il nous donnera sa vision de cette épidémie à ce stade et aussi des premières pistes thérapeutiques sérieuses qui arrivent enfin. Il nous dira également ce qu'il pense, évidemment, du plan de déconfinement annoncé hier par le Premier ministre. Après ça, nous nous pencherons sur les séquelles dont souffrent de nombreux patients guéris du Covid-19. Après une hospitalisation, un alitement prolongé, des maux de dos, une perte de poids, une atrophie des muscles peuvent rendre la récupération difficile. Eh bien, le service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Foch a élaboré un programme sur 3 semaines pour aider ses patients en post-hospitalisation. Le docteur Nicolas Barizian, médecin kiné, sera avec nous pour en parler. Ensuite, vous le savez, dans son rendez-vous, on continue de vous informer tous les jours, mais on essaye aussi de vous faire du bien. Et pour cela, nous allons apprendre à déstresser notre cerveau. Jean-Dominique Michel est co-auteur d'un livre sur le sujet qui sort aujourd'hui chez Humaine Science, qui s'appelle Neurostratégie. Il nous donnera des exercices et des applications, des explications scientifiques sur le fonctionnement de notre cerveau dans une crise telle que celle que nous traversons. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va nous parler aujourd'hui de ceux qui subissent une abstinence sexuelle forcée avec le confinement et qui redoutent les conséquences pour l'après 11 mai.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Gilbert Deray, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'abord, professeur, comment ça va à l'hôpital aujourd'hui?
Alors globalement, on assiste à une lente décrue dans toutes les zones en France, et en particulier au Grand Est et l'Île-de-France qui ont été les plus touchées. On reste encore sur un plateau relativement élevé. D'où les précautions qui ont été prises lors des annonces en disant que le 7 février, on allait faire un point, parce qu'il faut absolument que la décrue continue pour que les capacités sanitaires de ces zones aient été restaurées. Et si elles n'ont pas été restaurées, à ce moment-là, on ne pourra pas déconfiner, en tout cas pas dans ces zones.
Alors le 7 mai, hein, vous avez dit le 7 février, on a l'impression qu'on part dans un an, non, ça sera le 7 mai. On va commencer justement par ce plan de déconfinement, évidemment, dont les détails ont été dévoilés hier par le Premier ministre. Votre avis général, je dirais, sur les mesures annoncées, quel est-il?
Alors ça correspond en fait, c'est un plan sanitaire, hein, donc ça correspond exactement à ce dont nous avons besoin. Et là, je ne parle pas des détails, je parle uniquement des règles générales. Premièrement, ce qu'on vient de dire, restaurer les capacités sanitaires, donc on attend de voir le 7 mai où on en est. Deuxièmement, bien entendu, il va falloir tester massivement au minimum les contacts et les cas, évidemment, pour voir si l'épidémie repart et pour isoler, ça c'est le troisième point, ces personnes-là. Et on peut se demander s'il ne faudrait pas quand même, et moi je le pense, tester toutes les collectivités, c'est-à-dire une EHPAD par exemple, évidemment, les grands magasins. Donc on a testé, on a isolé, on a protégé, et effectivement là, on va avoir besoin de tout le monde, parce que protéger, ce sont les gestes barrières, c'est la distance, ce sont les masques. Tout le monde va devoir en porter, c'est bien, mais comment fera-t-on dans le métro, par exemple? Comment fera-t-on pour respecter les distances? Là, il y a des mesures qui sont à prendre. Donc les grandes lignes sanitaires, ce sont les bonnes lignes.
Justement, on va rentrer dans le détail. Jimmy Mohamed.
Professeur Deray, avec les mesures qui ont été annoncées, si on respecte les consignes, c'est-à-dire qu'on ne se dépasse pas à plus de 100 km, les écoles vont ouvrir, mais finalement très progressivement, les restaurants, les bars ne seront pas ouverts, si on respecte les gestes barrières, qu'on porte des masques, est-ce que selon vous, on peut quand même éviter une deuxième vague, puisqu'on a l'impression qu'elle est inéluctable et que quoi qu'il arrive, elle arrivera?
Non, moi je crois qu'elle n'est pas inéluctable. D'ailleurs, il y a qu'à voir ce qu'ont été les effets du confinement, qui ont été spectaculaires dans le monde entier. Là, il va falloir qu'on se méfie. C'est ces endroits qui vont être des bombes virales. C'est le métro, par exemple. C'est potentiellement le train. Ce sont des zones où on va avoir trop de personnes ensemble. C'est là le problème. Mais si on respecte bien tout ce qui a été dit, qu'on arrive à l'appliquer, il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas, non pas à une suppression du virus, ça, à mon avis, c'est difficilement imaginable, mais en tout cas, un bruit de fond tout à fait acceptable pour que la société reparte de l'avant et qu'on évite cette grande crise sanitaire qui va survenir si on continue le confinement. Donc, on doit y arriver. Mais il en va de la responsabilité de chacun.
On aime vous entendre, vous êtes toujours positif mais rationnel, c'est très intéressant. Alors je sais qu'il y a quand même un point sur lequel vous avez tiqué hier, et c'est ce qui concerne les masques, hein. Je crois que vous trouvez pas normal qu'ils ne soient pas mis à la disposition des Français gratuitement et de façon normée. Expliquez-vous.
Il y a deux choses. On parle donc de ces masques artisanaux. Les autres vont être massivement réservés au personnel de soins. Ces masques dits maison, en fait, ils ont quand même des normes. C'est 3 couches de coton, c'est une couture qui ne doit pas être sur le milieu. Et si on laisse chacun faire dans son coin, ils ne vont pas respecter les normes. Il n'y a qu'à regarder dehors certains masques. Et si ces masques ne sont pas de qualité, alors ils ne vont pas être efficaces et ça va être un drame absolu. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il devrait y avoir une fabrication industrielle massive et non pas des couturiers aux quatre coins du pays qui, malgré leur bonne volonté, on les applaudit, pourront pas nous fournir des masques de qualité. Et il faut qu'ils le soient. La deuxième chose, c'est que si on considère que ces masques sont essentiels, et ils sont essentiels, alors il est logique qu'on les donne à tout le monde. Alors on ne va pas demander à des familles de dépenser 10, 20, 30, 40 euros, 50 euros par mois pour ces masques. On sait qu'il y a des familles qui ne pourront pas. Donc on va encore défavoriser les milieux défavorisés. Donc on veut des masques de qualité qui soient faits par des gens soient formés pour ça. Et les normes ne sont pas si simples que ça à respecter et qui soient distribuées.
Et vous plaidez pour qu'ils soient gratuits, on l'a compris.
Absolument.
Professeur Deray, autre inquiétude, autre angoisse, c'est celle des parents qui hésitent à remettre les enfants à l'école dès le 11 mai. Et d'autant plus qu'on a une récente alerte, une maladie inflammatoire, une maladie de Kawasaki qui entraîne des myocardites chez l'enfant. Alors on a 25 cas en France pour le moment. On disait qu'à 3 jours, les enfants ne couraient absolument aucun risque, même si on n'a pas encore la preuve que le Covid soit en lien là-dessus. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet ?
Alors, il y a deux choses qui viennent en collision. Le premier, on va parler de cette maladie de Kawasaki qui est donc une maladie inflammatoire qui peut toucher différents organes, dont le cœur, mais également la peau, et qui est rare. Et là, on a trouvé deux petits clusters, on va appeler ça comme ça, tout le monde maintenant sait ce que c'est, en Grande-Bretagne et en France. Pour l'instant, le lien avec Covid-19 n'est pas établi, et la fréquence reste quand même, on va dire, rare. Donc, mon sentiment, c'est que s'il y a un lien entre Kawasaki, cette maladie inflammatoire, et Covid-19, on n'a quand même pas l'impression que c'est une épidémie. En tout cas, je
l'espère. Oui, 20 cas en France pour l'instant recensés, surtout à Paris, en plus, je crois. C'est même pas partout pour l'instant, donc
ouais, c'est
ça reste
pour l'instant,
léger, on dirait. Ouais.
Voilà, mais surtout, ça fait quand même 4 mois qu'on a l'épidémie. Si le signal était fort, on l'aurait quand même vu, le signal. Donc oui, peut-être qu'il y a des Kawasaki liés au Covid-19. Je n'ai pas l'impression que ce soit une forme très... très, très flamante. La deuxième chose, c'est la réouverture des écoles. Bien sûr, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. On sait qu'il va bien falloir que les enfants reprennent le chemin de l'école. Et on sait aussi que les raisons pour lesquelles il faut que ça se fasse sont multiples. Par exemple, il y a des enfants qui ont besoin d'un repas à midi, qui n'ont pas chez eux. Il y a des enfants qui sont maltraités. Donc, il y a une grande, grande différence d'une famille à l'autre. Et puis, il y a des parents qui doivent travailler. Comment ils vont gérer leurs enfants? Donc ce qui a été annoncé, je crois, c'est-à-dire quelque chose qui va se faire région par région, avec des décisions qui vont être complètement décentralisées, mais quand je dis décentralisées, ce n'est pas aux maires ou aux préfets, c'est même aux parents qui vont pouvoir décider s'ils mettent leurs enfants, ça me paraît sage. La deuxième chose qui me paraît sage, c'est de commencer par les petits. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute là que la garde est la plus difficile. Il y a une autre raison, c'est que ce sont les moins touchés en termes de sévérité par le Covid-19, malgré ce qu'on vient de dire pour le Kawasaki. Voilà, donc difficile. Là encore, chacun va devoir prendre ses responsabilités, et je crois nécessaire, mais il faut le faire de façon très souple.
Oui, mais juste quand même, votre sentiment personnel, même si Kawasaki, enfin ce syndrome de Kawasaki, dont le lien n'est pas encore tout à fait établi avec le Covid, en tant que parent, on voit ça alors qu'on nous disait il y a quelques jours, les enfants risquent rien, j'ai quand même pas envie que ça tombe sur le mien, vous voyez ce que je veux dire, et chaque parent se dit ça, donc vous auriez des enfants à mettre à l'école, vous les mettriez là, aujourd'hui, à titre personnel bien sûr?
Alors, j'aime jamais répondre à cette question, parce que quand on est médecin, on ne fait jamais bien pour sa famille. Si ma petite fille, plutôt que ma fille, puisque j'en suis là, moi, devait aller à l'école, pour ma petite fille, Raphaëlie, qui a 2 ans, oui, je la laisserai aller en crèche.
Très bien. Merci, professeur Deray. On n'a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec une émission toujours consacrée à l'épidémie de coronavirus. Le professeur Gilbert Deray, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, reste avec nous. Avec lui, on va parler un peu de traitement aussi, des traitements du Covid juste après et des premières lueurs d'espoir du côté de la recherche. Tout ça, c'est dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Alors, il est toujours en ligne avec nous, professeur Gilbert Deray. Vous êtes chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Encore un mot, professeur, sur le déconfinement à venir. Enfin, en tout cas, le léger assouplissement plutôt du confinement actuel. Tester, tracer, isoler. Vous l'avez dit, ce sera le triptyque gagnant selon plusieurs experts sont d'accord avec vous pour éviter cette deuxième vague. Mais les tests, clairement, même déjà aujourd'hui, on n'en fait pas assez, non, par rapport à d'autres pays, peut-être.
Attendez, j'ai pas entendu la fin de votre question.
Les tests, on n'en fait pas assez aujourd'hui.
Alors, ouais. Ça, c'est clair. On a eu un gros retard pour les tests. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'avait pas la capacité industrielle et diagnostique. Contrairement à des pays, par exemple, comme l'Allemagne, qui ont une industrie du test et qui, eux, avaient les machines et les éléments pour faire ces tests. Nous, non. D'ailleurs, ça nous amènera à nous interroger secondairement sur la nécessité de rapatrier en France, si ce n'est en Europe, tout ce qu'il faut pour faire de la médecine. La médecine doit être une activité stratégique.
Bien sûr. Jimmy.
Et lorsqu'on parle de ces tests, professeur, j'ai l'impression que malgré tout, les résultats, nous ne les avons pas assez rapidement. Est-ce que l'enjeu va aussi être d'avoir des résultats rapidement dans la journée, puisque pour l'instant, en médecine de ville, lorsque vous faites un test, vous avez les résultats au bout de 2, 3, voire 4 jours. Et donc, faire une enquête autour de ces cas, elle est absolument impossible si on n'a pas un résultat en quelques heures ou au maximum une journée.
C'est capital. Alors normalement, c'est ce qui est prévu. Quand on dit quelques heures, ce serait plutôt dans l'heure. Parce que, comme vous le soulignez, c'est essentiel si on veut chercher les contacts derrière, outre le fait quand même que les patients, quand ils attendent, ne sont pas très rassurés. Mais quand vous voulez faire l'enquête derrière, ça se joue à un jour près. Et donc, si vous avez votre test résultat 3 jours plus tard, ça, alors on va perdre tout l'intérêt d'aller chercher les contacts. On doit avoir le résultat tout de suite et on s'oriente d'ailleurs vers des résultats en minutes, pas en heures.
Bien sûr. Professeur Deray, on va passer un peu du côté de la recherche et même des bonnes nouvelles. On a appris que ça y est, on avait peut-être un médicament efficace pour éviter l'aggravation de certains patients, le tocilizumab. C'est vraiment encourageant ce que ça montre, cette étude-là. Enfin, on n'a pas encore les résultats détaillés, mais ce qui a été rendu public, on va dire.
Alors oui, avec quelques éléments de présence, et si vous me permettez, je voudrais rappeler quelque chose. D'abord, la 99,5% des patients guérissent. On finit par l'oublier tellement on a peur de ce virus. Et ce qui en fait le caractère agressif, c'est qu'il est très contagieux. Que donc même 0,5% sur une population, ça fait beaucoup de morts. Mais je me répète, plus de 99% des patients guérissent.
Deuxièmement, c'est important de le répéter, bien sûr.
Oui, le traitement, il va être très protéiforme. Et là encore, je voudrais dire quelque chose, c'est qu'il y a en ce moment dans le monde des centaines d'essais cliniques en cours pour trouver des solutions. Je n'ai jamais vu une recherche aller aussi vite dans aucun domaine en médecine, je suis convaincu qu'on va trouver. Pour répondre strictement à votre question, il s'agit d'un médicament qui va permettre de lutter contre l'inflammation. En fait, il va s'opposer à quelque chose qui s'appelle l'IL-6, qui est ce qui va donner ce gros syndrome, alors on l'appelle inflammatoire, appelons-le cytokinique, c'est pareil, qui va entraîner effectivement le décès de certains patients. Les résultats, attention, on ne les a pas complètement. Et là, on est aussi dans la fureur de la communication liée au Covid-19, c'est un peu inhabituel. Ceux qui nous sont donnés pour l'instant montrent qu'effectivement, on a moins de patients qui décèdent, moins de patients qui sont intubés. Donc attendons les résultats définitifs, mais s'ils se confirment, c'est une note qui est positive et ce sera l'une des armes du traitement qui va en comporter beaucoup d'autres. Les antiviraux qui vont être donnés plus précocement, les anticoagulants parce qu'on a beaucoup en ce moment de problèmes d'embolie pulmonaire. C'est une gestion qui est globale, ce virus. Ce ne sera pas un médicament, ce sera toute une panoplie de médicaments qui nous permettront de sauver nos patients.
Donc un traitement un peu complexe pour une maladie qu'il est, elle aussi, Jimmy Mohamed ?
Absolument.
Professeur, il y a beaucoup de débats entre médecins. Je pense que c'est important que nous ne soyons pas d'accord pour faire avancer la science, mais notamment au niveau des méthodes de recherche, on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres, notamment celle du professeur Raoult qui crée beaucoup de polémiques. Vous pensez que ce qui se passe en ce moment, ça va marquer profondément la médecine française ?
Ouais, je suis très attristé parce que les polémiques en cours, et plus que les polémiques, les ruptures, sont extrêmement regrettables. Il faut savoir que la discussion, elle est normale. La science n'est qu'une conversation. Et habituellement, on a cette conversation, puis après, on trouve des solutions. On a tout mis sur la table sans réfléchir. Et on dit aux gens qu'on a des solutions quand on ne les a pas. Et le problème, si vous voulez, c'est que ça va créer des climats de rupture de confiance entre le corps médical et les patients et le public, et ça c'est embêtant parce que sans confiance, on ne peut pas faire de la médecine. La deuxième chose, c'est je crois qu'on a terriblement ralenti les progrès médicaux parce que des patients ne veulent plus être inclus dans les protocoles, parce qu'on a perdu des semaines et des semaines à discuter de faire les études qu'il fallait faire. Donc moi, je suis très très attristé de tout ça. Nous aurions pu, dans de bonnes conditions, faire une étude de qualité. Nous saurions aujourd'hui si les médicaments auxquels vous faites allusion, c'est-à-dire hydroxychloroquine et l'azithromycine, sont ou non efficaces. Nous ne le savons toujours pas.
Il y a vraiment aujourd'hui des patients, vous dites que la polémique autour des méthodes du professeur Raoult, de la chloroquine, etc., ça a vraiment, il y a des patients qui refusent, qui ne veulent que la chloroquine et qui ne veulent pas rentrer dans d'autres protocoles cliniques, c'est ça?
C'est tout à fait ça, mais ça, c'est pas que ça. Hein. Quand après, ça fait le tour du monde que le président des États-Unis, Donald Trump, dit qu'il faut donner de la chloroquine à tout le monde, ça, il s'est passé la même chose aux États-Unis. Et alors, à l'inverse, je vais vous dire, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Quand récemment paraît une étude brésilienne qui dit à l'inverse que l'hydroxychloroquine aggrave les patients, eh bien, il s'est produit exactement la même chose à l'inverse. Vous avez des pays où les gens disent « je ne veux plus d'hydroxychloroquine ». Et donc, c'est tout le débat qui n'est pas bon dans un sens et dans un autre. Bien sûr qu'on veut tous sauver les patients. Bien sûr qu'on a conscience que l'incertitude crée la peur. Mais il ne faut pas dire à nos patients, parce qu'on ne sait pas, je sais, j'ai une solution quand on ne l'a pas.
Pour finir, Jimmy, une dernière question.
Oui, professeur. Le professeur Raoult explique que la courbe d'épidémie est en cloche et que ça y est, ça va être quasiment la fin, qu'il n'y aura pas de deuxième vague et que la hausse des températures permettrait peut-être aussi la fin de l'épidémie. Vous en pensez quoi?
Alors, premièrement, je souhaite, comme tout le monde, la fin de l'épidémie, quelle qu'en soit la raison. Et deuxièmement, depuis 4 mois, on se trompe à chaque fois qu'on dit quelque chose sur ce virus. Et enfin, troisièmement, nous devons être prêts pour la deuxième vague. Ça veut dire en pratique que je ne sais pas et personne ne sait ce qui va se passer avec ce virus qui nous surprend à chaque jour. Et quand je vois le nombre de bêtises que nous avons dit tous, les experts, moi compris depuis le début, on va rester prudents, on va se préparer pour la deuxième vague. Et si le virus disparaît, eh bien, tant mieux.
On sera tous contents, effectivement. Merci beaucoup, professeur Deray, d'avoir été avec nous pour nous apporter votre regard passionnant sur la situation que nous vivons, que nous subissons tous en ce moment. Merci encore.
Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, nous accueillons par téléphone le docteur Nicolas Barizien. Bonjour.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de rééducation fonctionnelle à l'hôpital Foch à Suresnes. Alors avec vous, on va s'arrêter aujourd'hui sur l'après-Covid. D'abord, qu'on ait été hospitalisé ou pas d'ailleurs, de nombreux patients gardent des séquelles un certain temps. De quel type justement?
Alors ils sont multiples en fonction de leur parcours. C'est-à-dire qu'on a globalement 3 types de parcours. Celui qui va faire une maladie qu'on connaît bien, la toux, la fièvre, une petite insuffisance respiratoire qui va pouvoir rester à la maison. Lui, il va être très fatigué. Il va avoir éventuellement les signaux ORL qui récupèrent en quelques semaines. Et puis on va voir ceux qui vont avoir besoin d'être hospitalisés et de passer quelques jours, quelques semaines dans un service médical avec de l'oxygène. Et puis malheureusement, le parcours grave où ces patients hospitalisés vont s'aggraver et vont devoir passer en réanimation. Et donc là, à ce moment-là, en plus de la fatigue, va s'accumuler des pathologies qu'on connaît bien en réanimation, qui sont très particulières dans le Covid, parce que ces périodes de séjour en réanimation sont particulièrement longues.
Oui.
Qui touche la fonction globale de l'organisme. Hein, je ne vais pas parler de ce qui est le cœur, le rein, hein, ça c'est vraiment de la réanimation, mais le muscle et les articulations. Et effectivement, ils peuvent conserver des séquelles qui mettent un certain temps à récupérer.
Et c'est là-dessus que vous êtes venu en parler. Ouais. Oui, pardon.
Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on essaie de les accompagner vers un retour à une vie la plus normale possible, une fois que l'épisode grave est passé.
Jimmy?
Oui, parce qu'on comprend aisément, malheureusement, que les personnes qui sont en réanimation vont avoir peut-être un peu plus de séquelles. Mais est-ce que vous observez malgré tout chez des sujets jeunes ou des personnes qui ont été hospitalisées très peu de temps, des séquelles malgré tout?
Oui, des séquelles sur ce qu'on appelle les capacités fonctionnelles, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Alors la vie de tous les jours, elle dépend de son âge, elle dépend de ce qu'on fait à la maison. Est-ce qu'on habite dans un appartement qui est au 3e étage sans ascenseur? Est-ce qu'on a un métier physique? Et est-ce qu'éventuellement on est sportif? Et donc on va avoir des conséquences de ce que j'appelle un peu la triple peine du Covid. C'est à la fois une maladie infectieuse fébrile dont on sait qu'elle va provoquer de l'inflammation articulation et en particulier dans le muscle avec une fonte musculaire, même chez le patient qui fait une forme bénigne, un alitement qui peut être prolongé. Avec, et ça c'est un exemple que je donne souvent, c'est si ça vous arrive de faire une grasse matinée de 10 ou 12 heures, bah quand vous vous réveillez, vous vous sentez un petit peu ankylosé, vous avez les articulations un petit peu raides, les muscles lourds. Et bah imaginez quelqu'un qui va rester alité pendant 12, 24, voire plus jours, et à ce moment-là, il va avoir ce que vous ressentez au quotidien, là, sur une grasse matinée de temps en temps, de manière démultipliée.
Alors, docteur Barizien, voilà, justement, pour aider les patients graves ou moins graves à récupérer, à l'hôpital Foch, vous allez élaborer un livret d'activité physique sur 3 semaines pour tous vos patients, surtout post-hospitalisation. Sur quoi il est axé, je dis post-hospitalisation, ce sont des exercices, j'imagine, mais qui vont sur quel axe ?
Eh ben, c'est 3 axes simples qui sont récupérer une mobilité qui permet de vivre au quotidien, c'est-à-dire réveiller les articulations, réveiller la connexion entre la commande nerveuse et puis la réaction du muscle, hein, parce que souvent ces patients ont une petite déprogrammation neuromusculaire. Donc c'est des exercices où on monte les jambes, on essaie de faire retravailler tous les groupes musculaires qui permettent de sortir du lit, de sortir d'un fauteuil, de se mettre debout et après de marcher.
D'accord.
Le Covid touche aussi la respiration et donc on va travailler sur des exercices d'ampliation de la cage thoracique, hein, parce que le poumon est convalescent et on va essayer avec des exercices que connaissent bien les kinésithérapeutes de redonner une mobilité maximum à la cage thoracique. Et puis les patients se plaignent souvent d'avoir mal au cou, des cervicalgies parce qu'ils sont restés longtemps alités, parce que les muscles du cou sont assez sensibles à ces orages inflammatoires et ils ont souvent très mal au cou et donc on a jugé nécessaire de faire quelques petits exercices pour dérouiller un petit peu tout ça.
Et justement, docteur,
Jimmy, allez-y, oui,
justement, des patients qui n'auraient pas été forcément hospitalisés, mais qui gardent malgré tout, je constate, une toux un peu résiduelle, une fatigue un peu à l'effort. Est-ce qu'il y a des exercices qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes ou ils sont obligés de passer par un kiné qui va d'abord leur montrer les choses et puis ensuite faire les exercices par la suite par mimétisme ?
Non, tout à fait, c'est des exercices qu'on peut faire en auto-rééducation. Hein, ces exercices-là sont validés et éprouvés, on sait qu'ils n'ont pas d'effets secondaires. Et effectivement, quelqu'un qui aurait une forme relativement bénigne, pris en charge à la maison, et qui voudrait récupérer ses petites fonctions, voilà, une petite toux résiduelle, la nécessité de récupérer un souffle qui n'est pas court au moindre effort, ça pourrait tout à fait faire ce type d'exercice. Après, effectivement, les patients qui ont des symptômes qui persistent, nécessite d'être pris en charge par des professionnels de santé, que sont les kinésithérapeutes pour ça. Mais effectivement, ces exercices simples pourraient être faits en auto-rééducation. D'ailleurs, c'est le but du jeu, c'est qu'on apprend aux patients à les réaliser pour qu'ils soient en confiance, qu'ils récupèrent confiance dans leur corps, pour qu'ils puissent le faire en autonomie, en auto-rééducation à la maison, tout seul, en suivant un petit livret très simple, parce que il faut que ça soit simple pour que ça soit observé.
Merci beaucoup, docteur Barizien, d'avoir été avec nous pour nous détailler de quelle façon donc la rééducation se déroule aussi après le Covid. On l'a compris, les exercices avec les kinés ou seuls à la maison, dans l'après, c'est aussi fondamental pour remettre les patients sur pied. Merci encore.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Alors à présent, on va tenter de vous faire du bien, de chouchouter votre cerveau plus particulièrement. Et pour cela, nous allons prendre en ligne Jean-Dominique Michel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue de la santé et auteur de Neurostratégie, comment prendre soin de son cerveau pendant le confinement et après, aux éditions Humaines Sciences. Pendant le confinement, comment notre cerveau, très concrètement, il est touché ? Qu'est-ce qui se passe dedans, vraiment, finalement ?
Alors, je verrais 2 lignes de force fondamentales. La première, c'est qu'il est soumis à une situation qui est anxiogène, c'est-à-dire qu'on ne se terre chez soi que quand il y a un réel danger à l'extérieur. Il y a toutes ces nouvelles aussi comme ça, très impressionnantes, des images, des données qui nous parviennent en continu. Et donc, comme notre cerveau réagit à des informations de cet ordre comme s'il était littéralement confronté à un danger, il va y avoir des états de stress et d'anxiété qui vont toucher beaucoup de personnes. Et puis la deuxième ligne de force, c'est qu'on est en déprivation d'un certain nombre de choses qui nous font du bien, des relations sociales, des relations humaines, la capacité de se promener à notre guise dans l'environnement, d'aller chercher un rayon de soleil dans un parc. Et tout ça, on en est privé temporairement. Et évidemment que ça met notre cerveau, mais aussi notre psychisme, notre sensibilité en souffrance. Ouais.
Jean-Dominique, on est confronté à beaucoup de mots qui peuvent nous faire peur, qui sont anxiogènes. Le mot maladie, virus, épidémie, guerre, ces mots-là, ils ont un impact direct sur notre système cérébral, je dirais.
Ah oui, et ça a été une des découvertes vraiment passionnantes de la recherche en imagerie cérébrale. Vous savez, ces IRM ou ces PET scans dans lesquels on met les gens pour voir ce qui se passe en temps réel dans leur cerveau. Et effectivement, ça a été l'occasion de confirmer que notre cerveau est particulièrement sensible à ce qui relève de la négativité. Donc si vous flashez le mot « non » pendant une fraction de seconde devant quelqu'un qui est dans un IRM, vous allez avoir une réaction relativement importante de son cerveau. Alors que si vous projetez le mot « oui », il va a priori pas se passer grand-chose. Et les mots que vous avez évoqués et d'autres, effectivement, automatiquement, j'ai envie de dire, dès qu'on les entend, provoquent des réactions de stress et de détresse. Alors c'est important de le savoir parce que par ailleurs, pour notre équilibre émotionnel et psychique, nous avons besoin d'au moins 3 idées ou mots positifs pour un mot négatif. Et par exemple, on sait que c'est ce qui permet au couple de tenir dans la durée. Si dans un couple, vous avez moins de 3 expressions positives pour une expression négative, à 94% de cas, le couple va vers le divorce. On ne peut pas vivre dans un couple où il n'y a pas suffisamment de choses bénéfiques, bienveillantes, appréciatives qui sont dites. Donc on a aussi à faire cet effort d'aller chercher des raisons de gratitude, de reconnaissance, de bien-être, parce que sinon on glisse un peu naturellement sur la pente de la négativité.
Ça fait partie des exercices pour faire du bien à son cerveau. Docteur Jimmy Mohamed.
Mais pourquoi est-ce que ces mots, comme la maladie, le virus, une épidémie ou guerre, va provoquer des vraies réactions dans notre cerveau? Est-ce que c'est lié au fait que nous avons dans le passé connu des épidémies ou pas? Alors la peste, on n'a pas connu, mais le choléra non plus. Mais si on parle plus récemment, le sida, le VIH, c'est des maladies qu'on connaît et lorsqu'on les évoque, ça met notre cerveau en alerte et on s'en rappelle?
Ah oui, ça j'en suis absolument convaincu. Et puis alors un autre argument en faveur de l'explication de ce phénomène qu'on observe à l'imagerie cérébrale, c'est le fait qu'il y a eu un avantage évolutif pour notre espèce pendant des millénaires d'être anxieux. Pour prendre un cas de figure caricatural, je m'en excuse, mais à l'époque on vivait dans la savane avec des buissons et où un prédateur pouvait être caché derrière chaque buisson. Les individus plutôt optimistes qui se disaient « non, mais le risque n'est pas très élevé, j'y vais quand même », finissaient probablement par se faire attaquer, là où les individus plus anxieux ou paranoïaques avaient plus de chances de survie. Un dicton de l'humour juif d'ailleurs le dit, c'est que les juifs optimistes ont fini dans les camps de concentration et les juifs pessimistes aux États-Unis. Donc ça a été pendant longtemps un avantage. Sauf que dans une société où, sauf maintenant évidemment avec cette épidémie, mais la quantité de dangers objectifs est bien moindre qu'elle a été dans le passé, on tend à réagir à des choses qui ne sont pas dangereuses comme si elles étaient dangereuses.
Néanmoins, Jean-Dominique, il y a quand même, on voit bien que les gens ne fonctionnent pas de la même façon. J'imagine que même nos cerveaux sont pas tous, n'ont pas tous la même réaction, que ce soit le mien ou celui du docteur Jimmy Mohamed, je ne sais pas. On n'a pas forcément la même réaction cérébrale, je vais dire, au danger, à ces mots. Enfin, j'imagine que c'est quand même quelque chose d'assez subjectif.
Alors, pas tout à fait. Non, là, je serais plutôt en désaccord avec vous. Parce que dès lors qu'il s'agit d'un danger, c'est des étages plus archaïques du cerveau et qui vont plutôt avoir tous tendance à réagir de la même manière, sauf chez les gens, bien sûr, qui sont en déni ou qui ont des mécanismes de défense particulièrement développés. Là où ce que vous dites, par contre, se vérifie tout à fait, c'est qu'en fait, les mots, d'une manière générale, et surtout les mots abstraits, n'ont pas la même valeur pour différentes personnes. Les mots concrets, oui, si je dis chaise, ça aura la même signification a priori pour vous que pour moi. Mais si je dis justice sociale, équité, bienveillance, Dieu, ce sont des mots qui ont vraiment une incarnation singulière dans le psychisme de chacun.
D'accord. Docteur Jimmy Mohamed.
On a vu circuler pas mal de fake news sur cette épidémie. Comment est-ce qu'on explique que certaines personnes développent ou adhèrent plus facilement à des théories du complot ?
Oui, alors ça a été très très bien observé en psychologie et en neuropsychologie, c'est qu'en fait, la théorie du complot a un immense avantage, c'est de fournir une explication qui semble pouvoir faire sens d'éléments contradictoires dans la réalité. Et une chose que j'observe, par exemple, vous savez, je suis franco-suisse et j'observe les choses depuis Genève, c'est juste à côté de chez vous, mais c'est par exemple que la communication du gouvernement français depuis le début de l'épidémie a été très contradictoire à beaucoup d'égards. Ainsi, dans 40 pays, on utilise l'hydroxychloroquine et qu'a priori, ça empêche les gens de se péjorer. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne le fait pas? Mais pourquoi est-ce que le président Macron va à Marseille dire que le professeur Raoult n'est pas très grand scientifique? Donc il y a beaucoup de contradictions, mais le réel est contradictoire, plus ou moins évidemment. Et c'est vrai que les théories du complot, elles ont cet avantage de faire sens de tout ça. Ça ordonne, ça permet d'imaginer un scénario qui permettent de tout comprendre. Le président Macron est à la botte de Bill Gates, qui veut vacciner le monde entier pour faire je ne sais pas quoi. J'ai compris de quoi il s'agit, et ça met un filtre qui réduit la complexité, mais au prix évidemment souvent de théories complètement délirantes.
C'est une façon d'adhérer tout en calmant son cerveau. Alors Jean-Dominique Michel, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est toujours en ligne avec nous, Jean-Dominique Michel. Je rappelle que vous êtes anthropologue de la santé et auteur de Neurostratégie, comment prendre soin de son cerveau pendant le confinement et après, qui sort aujourd'hui aux éditions Human Science. Justement, c'est notre sujet du jour. On va passer à la pratique avec vous pour chouchouter un peu notre cerveau, celui de nos auditeurs. Jean-Dominique Michel, comment on prend soin de son cerveau durant le confinement? Alors, vous avez donné des pistes tout à l'heure. Il faut avoir des pensées positives, d'accord? Est-ce qu'il faut continuer à se renseigner? Est-ce que s'informer, parce que certains sont en boucle devant des chaînes d'infos en continu, c'est important? Ça permet de calmer son cerveau ou pas?
Alors, ça peut. Tout dépend de comment c'est fait. Je distinguerai en ce qui me concerne ce qui est très plus de l'ordre de la documentation. Je cherche à me renseigner. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses contradictoires où il y a beaucoup de polémiques, donc je me renseigne, je vois ce que disent les uns et les autres et j'essaye de me forger ma propre opinion, ce qui évidemment est très bon pour la santé. De ce qui serait plus de l'ordre du gavage d'informations déversées en boucle, notamment par des chaînes d'informations en continu, et qui à l'inverse, à haute dose, sont assurément anxiogènes. Donc de temps en temps, on s'y réfère pour grappiller de l'information fort bien, mais il y a une exposition à ce matraquage médiatique qui, lui, peut être extrêmement nocif pour la santé.
D'accord, et la santé, bien sûr, cérébrale, c'est de ça que l'on parle aujourd'hui. Jimmy Mohamed.
Est-ce que, justement, vous avez des petits conseils pour essayer de faire disparaître cette anxiété un peu permanente?
Oui, absolument. Et une des clés de base, c'est de ne pas chercher à la faire disparaître. C'est un peu comme nos pensées. Vous voyez, dans beaucoup de pratiques méditatives, on se dit à tort, il faut essayer de supprimer nos pensées. Mais c'est peine perdue, nos pensées. Notre cerveau n'arrête pas d'avoir des pensées. C'est un peu comme des bulles de savon qui montent dans l'air. Et en fait, il ne s'agit pas tellement de la supprimer, il s'agit de la mettre à sa juste place. Et notamment, une des choses, on est très piégé collectivement aujourd'hui dans notre société par rapport à ça, et qu'on a perdu de vue l'importance d'avoir des moments où on ne fait rien et où on ne pense à rien. Quand on est enfant, c'est très naturel. Je pense qu'on a tous été rappelés à l'ordre en classe par une maîtresse d'école qui vous disait « Hé, t'es dans la lune, reviens, c'est ici que ça se passe ». En fait, ces moments où on est dans la lune, c'est notamment le moment où on imprime l'information dans la mémoire longue, donc les élèves en ont besoin pour mémoriser ce qu'ils viennent de voir, et puis c'est les moments où en fait on rééquilibre notre bien-être intérieur. Et aujourd'hui, on est tellement exposé à de l'information sous toutes ses formes, par les biais numériques, nos smartphones, etc., qu'on est un peu en flux tendu d'informations, là où on aurait besoin de quelques dizaines de secondes ou quelques minutes de pause, au moins toutes les 20 minutes, pour permettre à notre cerveau de se rééquilibrer lui-même. Et quelques stratégies toutes simples pour aider en ce sens-là, c'est le bâillement. Alors qui vient parfois spontanément, hein, c'est une manière de rééquilibrer nos différents circuits cérébraux. Si on le fait en conscience, on bâille 5-10 fois, vous verrez que tout de suite il y a un état de détente délicieux qui s'installe. Et je dirais que c'est surtout dans cette vigilance entre les différents modes de pensée attentive, concentrée et pensée défocalisée, où on pense à rien, on est juste dans le bien-être du moment, qu'il s'agit de préserver pour sortir un peu de cette pente collective dans laquelle on est, d'être trop dans l'activité cérébrale.
C'est intéressant ce truc-là, de bâiller, de se forcer à bâiller pour se mettre un petit peu en pause, parce qu'effectivement, dans la lune, on est quand on est enfant, mais en grandissant, parfois, on perd un peu le chemin de la lune. Alors, c'est parfait, merci beaucoup. Vous dites aussi, je crois, que pour le cerveau, c'est très important de créer pour justement pour en prendre soin, il faut créer. Qu'est-ce qu'on peut créer, par exemple, pendant le confinement, qui pourrait nous faire du bien au niveau du cerveau?
Alors justement, ça, je trouve que c'est un très bon effet du confinement. Hein. Il y a évidemment des côtés négatifs, mais il y en a aussi des positifs. Et je trouve que beaucoup de gens réinventent des modes de créativité au quotidien, que ce soit par le biais de hobbies. Beaucoup de gens se remettent à dessiner ou à peindre, ou à faire du bricolage, ou à faire des poèmes, ou à écrire des textes, ou faire de la gymnastique seule chez soi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a toutes sortes de ressources que le temps dont on dispose ces jours-ci, et dont on ne dispose pas dans le mode de vie habituel, nous permet de mettre en œuvre dans nos vies. Mais vous savez, ça aussi, on le voit bien avec les enfants. Ils ont besoin de s'ennuyer, parce que c'est au moment où ils commencent à s'ennuyer que les idées créatives jaillissent. Et nous, en tant qu'adultes, je trouve qu'on a un petit peu perdu cet espace dans nos vies où on peut se permettre le luxe de s'ennuyer. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous êtes ennuyée, Mélanie.
Oh, ça m'arrive quand même un petit peu en ce moment, le week-end parfois justement, parce que là, la semaine, j'ai pas trop le temps de m'ennuyer, mais le week-end, j'y arrive quand même. Docteur Jimmy Mohamed, une toute dernière question, s'il vous plaît.
Oui, ça concerne le rangement et le nettoyage. Apparemment, ça aide certains, et je dois reconnaître que ma femme n'a jamais autant nettoyé la maison. Mais elle me dit que ça lui fait du bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment le ménage fait du bien en cette période particulière quand même?
Ah oui, ça fait énormément de bien, ne serait-ce que sur le plan physique. Vous savez que rester assis trop longtemps, ce qui est devenu aussi le mode de vie d'à peu près tout le monde aujourd'hui, est très mauvais pour la santé. Cette espèce de gymnastique douce du ménage où on s'accroupit, on doit ramper sous un meuble, on se remet debout, on va chercher quelque chose en haut d'une étagère. Tout ça, c'est une mobilité douce qui est absolument bienfaisante pour le corps et le psychisme. Et puis c'est vrai que cette capacité de donner du soin à son intérieur plus qu'on ne peut le faire habituellement...
C'est très satisfaisant.
Oui, puis ça met de l'ordre dans un univers qui est devenu chaotique à cause de la pandémie. Et ça fait contrepoids, j'ai envie de dire.
Merci beaucoup Jean-Dominique Michel. Donc faire le ménage, ça permet de ranger un peu son cerveau aussi. Merci d'avoir été notre invité. Merci pour vos conseils. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, Neurostratégie, comment prendre soin de son cerveau pendant le confinement et après, qui vient donc de sortir en numérique aux éditions Human Science. Merci encore.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, et elle entre par la fenêtre. Non, elle a la fenêtre ouverte avec les petits oiseaux tous les jours avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, il y a des oiseaux chez vous parce qu'il pleut chez nous, hein, je ne sais pas.
Eh bien non, il pleut chez moi aussi, mais voilà, non, ils n'ont pas, ils en profitent, ils attrapent les petits vers, donc ils se nourrissent, ils s'en donnent à cœur joie, mais ils ne chantent pas. Allez. Voilà.
Bon, Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Benjamin. Benjamin, il a 27 ans, bientôt 28, nous écrit-il, et il écrit la chose suivante. Avant le confinement, j'avais une vie sexuelle très active, j'avais parfois l'habitude d'enchaîner les plans d'un soir. Actuellement, je n'ai aucun rapport sexuel, mais j'arrive plutôt bien à gérer. Auriez-vous 2-3 conseils à me donner pour éviter qu'à partir du 11 mai, cela reparte de plus belle, voire pire? Bon, voire pire, je ne sais pas, on va voir. Catherine, c'est vrai que pour les personnes comme Benjamin, passer d'une vie sexuelle très intense à rien, j'imagine que c'est difficile.
Oui, mais il arrive à gérer, et c'est, je trouve, un truc extraordinaire, c'est que justement, en amont de ce confinement, il n'aurait pas imaginé que ce puisse être possible, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de boulimie sexuelle avec des coups d'un soir sans prendre le temps de la mesure de chacune de ces rencontres, pour la sexualité, l'autre étant l'objet de cette excitation et de cette sexualité. Et puis finalement, le confinement venant, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, et finalement, la vie se passe plutôt bien. Ça ne veut pas dire que le sujet de la sexualité a disparu, sinon évidemment sa question ne serait pas à l'ordre du jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est son inquiétude après le confinement que tout redevienne comme avant, voire pire. Donc ce qui veut dire que cet avant n'était pas satisfaisant. C'était un avant boulimique, pas nécessairement confortable, pas nécessairement... Il y avait une excitation et un plaisir, bien sûr, à la réponse à cette excitation, mais pas nécessairement d'aboutissement qui lui permette l'épanouissement qu'il peut attendre. Et quand je parle d'épanouissement, je parle pas d'épanouissement sexuel, je parle d'épanouissement d'homme, en quelque sorte.
Global, bien
Donc,
sûr.
Donc c'est
bien sûr.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train d'expérimenter pendant tout ce temps de
une
confinement...
Une sorte de sevrage, hein.
Le sevrage et la frustration, comme Joe Dassin qui sifflote quand bien même la belle ne vient pas. Et bien voilà, Benjamin est également la fleur entre les lèvres, et il attend, et puis il voit que tout se passe bien, finalement on n'en meurt pas, c'est plutôt une très très bonne nouvelle.
Docteur Jimmy Mohamed, vous avez une question?
Oui, alors toute ressemblance avec le journaliste avec qui on travaille, Benjamin Lévesque, ne serait qu'une pure coïncidence. Mais est-ce que, étant donné que ce confinement et ce sevrage s'est plutôt bien passé, d'après ce qu'on lit, et que finalement le fait de ne pas avoir de rapport sexuel n'a pas entraîné de trop grosses conséquences, est-ce qu'on peut se dire que il n'est pas si accro au sexe et que finalement ça peut aller pas mal?
Absolument, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est presque une idée qu'il se fait de lui-même d'être accro, comme si ça lui donnait une fonction sociale, une fonction en termes de personnage, d'identification claire pour l'environnement, une sorte de réduction aussi auquel il peut se réduire, et tout d'un coup le champ des possibles s'ouvre pour pouvoir essayer de faire émerger autre chose et faire de la sexualité autre chose qu'une exigence, qu'une réclamation perpétuelle, mais plutôt l'occasion de découverte de soi dans le lien à l'autre, avec des temps de pause, et de l'autre indépendamment de la sexualité. Donc ce peut être une vraie occasion. de réenvisager le sujet de la sexualité et du désir et de comprendre ce que veut dire son désir. Est-il bien question de désir sexuel ou est-ce autre chose qui est agissant ?
Alors Benjamin, il s'est peut-être rendu compte qu'une vie plus calme, plus monacale, je dirais, lui convient finalement pas si mal. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à la sortie de tout ça, qu'il ait une envie, un besoin de rattraper le temps perdu finalement depuis plusieurs semaines ?
Bah, c'est un petit peu comme si tout d'un coup, le jour où les restaurants ouvriront, eh bien, on se fait 4-5 repas dans la journée pour rattraper. On ne rattrape pas ce qui est perdu et perdu. Et ce que l'on aura appris à cette occasion, c'est un apprentissage formidable. Donc l'idée qu'il nous faudrait rattraper une sexualité que l'on n'a pas eue pendant 2 mois, ce serait penser qu'on fait des réserves, on ne fait pas de réserves. Et ça serait se dégoûter des jours où tout d'un coup, dans un élan boulimique, on serait dans une consommation sans mesure aucune. Donc, c'est pas de rattraper. On ne s'est pas perdu dans ce temps de confinement sous prétexte qu'on a stoppé un temps de sexualité. Par contre, on peut en profiter à la réouverture des liens possibles dans la sérénité. On peut tout d'un coup mesurer le goût de, ne serait-ce que d'abord de toucher l'autre, puisque ça sera d'abord la première question, la possibilité de se toucher, de s'embrasser, et puis de prendre la mesure de tous ces plaisirs que l'on avait peut-être oubliés au prétexte de l'urgence de pénétration et de sexualité réduite à nos organes génitaux.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr dès demain, 15h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur.